Alors, on est dans la dernière leçon du cours L'Esprit Saint et vous, des questions pratiques. Et on va aller dans un mot de prière ensemble. Eh bien, Père, merci pour ce temps dans ta parole. Je te prie, Père, de venir nous édifier en nous parlant de ton Esprit Saint et de l'œuvre qu'il fait en nous. Le but, Seigneur, de ce cours, c'était de mieux comprendre certaines directives qui nous sont données à l'égard de l'Esprit, Seigneur. De mieux comprendre comment il travaille dans nos vies, de mieux saisir comment nous pouvons collaborer avec lui. Alors, je te demande de venir bénir, Seigneur, cette dernière leçon. Nous voulons, Seigneur, marcher dans la plénitude de l'Esprit Saint. Nous voulons marcher selon l'Esprit. Nous ne voulons pas, Seigneur, l'attrister ou l'éteindre dans nos assemblées, Seigneur. Je te prie de venir nous instruire dans tes voies. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Amen. Alors, merci à la chorale de m'avoir apporté des étudiants ce matin. Voici ce que j'ai décidé de faire. On va parler ensemble de marcher selon l'Esprit. On va aller voir un passage. C'est un sujet qui est plus facile à comprendre parce que Paul en parle au moins à deux reprises et il en parle plus longuement. Donc, c'est pas comme n'éteignez pas l'esprit où on a trois versets, une phrase, ça finit là. On est censé tout avoir compris de ce qu'il a voulu dire. Là, dans ce cas-ci, il y a beaucoup plus de matière. On va parler de ça et j'espère avoir le temps juste de faire une révision de ce qu'on a vu précédemment à la fin. D'accord? Mais vous l'avez dans vos notes. Donc, à la fin de vos notes, j'ai essayé de résumer encore une fois en un paragraphe chacune des directives qu'on a vues par rapport à l'Esprit-Saint. C'est bon? Pendant que j'étais en train de me préparer pour la leçon, une des choses à laquelle je réfléchissais, c'est le fait que le Nouveau Testament nous dit que l'Esprit-Saint est venu habiter en nous. Malgré tout ce que les Écritures nous enseignent sur ça, j'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment saisir ce que ça veut dire. Le parallèle, si vous prenez le premier passage que je vous cite dans 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » La comparaison que Paul donne, c'est avec le temple dans l'Ancien Testament, d'accord? Notre corps devient ce temple qui reçoit Dieu. Je ne pense pas qu'on peut vraiment comprendre ça. Moi, personnellement, je n'arrive pas à saisir vraiment ce que ça veut dire. Parce que lorsque je lis dans l'Ancien Testament Dieu dans le temple, je veux dire, tu ne t'approches pas, tu vas mourir. C'est Dieu qui est dans le temple. C'est le Dieu trois fois saint qui est entré dans le temple. Et lorsqu'on regarde le rôle du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu, sa présence, sa sainteté, cet être-là saint est venu faire sa demeure en moi. Je pense qu'on ne pourra jamais vraiment saisir ce que ça veut dire, à part peut-être lorsqu'on sera dans la présence du Seigneur. Mais en même temps, de méditer à ces choses-là, ça, moi je vous dirais ça, ça me conscientisait ou ça me sensibilisait au désir d'être sensible à l'Esprit qui est en moi, à ne pas vouloir l'offenser, à ne pas vouloir l'attrister d'aucune manière, à vouloir être attentif à ce qu'il est en train de faire dans mon cœur lorsqu'il me parle, lorsqu'il me met en garde contre des situations, contre des choses, davantage respectueux envers l'Esprit Saint. Éphésiens 4, tournez avec moi s'il vous plaît dans Éphésiens 4, 29 à 32. Éphésiens 4, 29. En fait, 30, là, ça dépend de votre édition de la Bible. Ce que je cherche, c'est « N'attristez pas le Saint-Esprit. » « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. deux choses. On a déjà parlé de la question d'attrister, d'accord? Mais je suis en train de préparer le chemin pour marcher selon l'Esprit. Le Saint-Esprit est une des trois personnes de la Trinité. Et c'est sur ça qu'on a basé le fait qu'on pense qu'on peut vraiment l'attrister. C'est une personne qui peut être attristée et qui habite en moi. Et Paul me dit ici dans Éphésiens 4, 29 ou 30, qu'on a été scellé, j'ai été scellé par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est venu faire sa demeure en moi et j'ai été scellé. Il en a fait une demeure permanente et j'ai une personne de la Trinité qui habite en moi. Comment est-ce que je pourrais l'attrister? Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Donc, par ces choses-là que je garderais dans mon cœur, de l'amertume, des colères, des choses comme ça, je pourrais attrister l'Esprit qui habite en moi. D'accord? On est dans le temple, retourné dans l'Ancien Testament, et j'amène quelque chose de scandaleux dans le temple. C'est ce qui se passe lorsque je ne suis pas sensible à l'Esprit qui habite en moi et je laisse des choses s'installer dans mon cœur. D'accord? Dans un sens, on pourrait dire qu'à tout moment, on attriste l'Esprit parce qu'on est pécheur et on pêche. À tous les jours, on va pêcher quelquefois. Mais ma repentance, le fait que je retourne à Christ promptement, c'est encore une écoute de l'Esprit, puis je ne reste pas dans cette situation-là. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on fait pour ne pas attrister le Saint-Esprit? Bien évidemment, il y a l'idée ici de ne pas laisser ces choses-là dans nos cœurs. Je pense que la contrepartie positive ou la manière de le voir positivement, c'est de marcher selon l'Esprit. Tournez avec moi dans Galates 5, s'il vous plaît. Galates 5, 16. Là, je vais vous lire les versets 16 à 25. Galates 5, 16 à 25. Si vous êtes familier avec les écrits de Paul, on a une pensée ici qui est similaire à celle qu'on a dans Romains 8. D'accord? Ça se ressemble énormément. Il ne va pas nécessairement prendre le terme marcher, mais ça se ressemble. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi, or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Paul, dans Romains, développe l'idée qu'il y a comme deux lois qui voudraient lutter à l'intérieur de nous. Il y a la loi de la chair, si je peux dire, ou le règne de la chair et l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Les deux sont fondamentalement opposés. Les deux vont dans deux directions complètement opposées. Quand Paul parle de la chair ici, quelqu'un qui voudrait me résumer ce que Paul veut dire? Juste pour le clarifier, s'il y a des gens qui ne sont pas familiers. OK. Presque. On n'est pas loin. C'est ça. Le meilleur résumé, ce serait la nature pécheresse. D'accord? Alors, parce que je veux dire, il y a moi aussi peut-être qui veut faire des bonnes choses. Et donc, ça c'est lorsque je suis conduit par l'Esprit. Mais donc, la nature pécheresse ici, c'est la chair. On n'est pas en train de parler du corps. Il ne faut pas faire d'association avec le corps. Okay? Paul n'est pas en train d'opposer l'Esprit en nous et puis notre corps. Ça, c'est une pensée grecque qui n'a rien à voir avec la pensée biblique. même si on attend un corps nouveau et que ça va faire partie de notre libération du péché aussi, d'avoir un corps nouveau. Mais il n'est pas en train de parler d'une opposition entre ce que le corps voudrait et ce que le spirituel voudrait. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de parler de notre nature charnelle, notre nature pécheresse. Et il dit, les deux sont diamétralement opposés. Les deux aspirent, ont des désirs qui sont opposés. Notre chair a des désirs qui sont complètement opposés à tout ce qui se trouve de vertueux en Dieu. Tout ce qui ressemble à Dieu. Ainsi, l'homme naturel qui n'a pas connu Christ n'a pas reçu non plus l'Esprit de Dieu. Cet homme marche selon les désirs de la chair. Hier, j'ai eu un choc. Vous m'entendez parler de Facebook de ce temps-ci. Là, je suis en train de faire plein d'amis. Fait que j'ai reçu comme quelqu'un qui a accepté d'être mon ami. Puis, dans ce temps-là, il recommande d'autres noms. Et puis, lorsque je vois des jeunes qui venaient à l'église, puis qui ne viennent plus à l'église, ou des gens qui ne viennent plus à l'église, bien, j'ai tendance à essayer de les embarquer, parce qu'évidemment, je parle de ma foi sur Facebook. Puis là, j'ai été confronté à la page de quelqu'un qui, un jeune qui venait à l'église ici, puis j'étais juste comme exposé. Là. Puis là, j'étais transporté dans un autre univers complètement. Là. J'étais dans une autre dimension de débauche absolument incroyable. Puis évidemment, mon cœur a été comme rempli de tristesse, parce que tout de suite, je pensais aux parents de ces jeunes-là. Mais c'est juste comme une heure après que j'ai réalisé, puis là, j'ai dit, « Mais ouais, mais celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, sa chair, c'est juste ça qu'elle désire. Tu sais, même si moi, ça me scandalise, cette personne-là est juste en train de suivre l'inclinaison naturelle de son cœur. C'est tout ce qui se passe. Il n'y a pas rien comme de surprenant, là. C'est normal. L'homme naturel qui n'a pas connu Christ n'a pas reçu non plus l'Esprit de Dieu. Cet homme marche selon les désirs de la chair. Paul nous parle, lui, des désirs de l'Esprit. Ça, c'est intéressant parce que je viens de mentionner dans Éphésiens 4 l'idée qu'on peut attrister l'Esprit parce que l'Esprit, c'est une personne. Puis une personne a des désirs aussi. Et donc, l'Esprit a des désirs. Il veut produire en nous quelque chose. Il veut incliner notre cœur vers ce qui est digne de Dieu. Il veut former en nous Christ. Il veut nous transformer à l'image de Christ. Donc, l'Esprit a des désirs. Il a des penchants. Il a des inclinaisons, lui aussi. Elles sont opposées aux inclinaisons de la chair. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que lorsqu'on essaie de comprendre comment l'Esprit Saint travaille en nous, marcher selon l'Esprit, c'est, entre autres, comprendre quels sont les désirs que l'Esprit veut faire naître en nous. D'accord? Si je reviens avec mon illustration tantôt de Facebook, lorsque mon cœur a été rempli de tristesse devant ce que je voyais, la deuxième chose qui est venue en moi, c'est le désir de prier. Mon ancienne nature, ma nature charnelle, aurait même pu vous profiter de ce qui m'était proposé. Si vous pouvez lire entre les lignes deux minutes. Là. Mais au contraire, j'ai été submergé par de la tristesse puis le désir de prier pour cette personne-là. Est-ce qu'on peut parler des désirs de l'Esprit? Est-ce qu'on peut parler de l'Esprit qui m'amène à faire la bonne chose? Quelque chose que naturellement, je n'aurais pas fait. Moi, naturellement, je l'ai déjà dit, vous m'avez entendu régulièrement dire, je suis tombé dans la pornographie à l'âge de 8 ans. Là. Je trouvais ça facilement chez moi. Naturellement, mes désirs n'auraient pas été de prier. Qu'est-ce qui fait qu'en moi, il y avait quelque chose qui disait « aïe, aïe ». Puis c'était pas comme... Au début, c'était du scandale, mais assez vite, c'était de la tristesse. Puis après ça, c'était le désir de prier. Est-ce qu'on peut parler des désirs de l'Esprit? Donc, j'ai trouvé ça intéressant que dans Galates, Paul, en utilisant ce langage-là, puis en nous parlant de désirs, il y a les désirs de la chair, il y a les désirs de l'esprit, il me semble qu'il nous donne une piste pour comprendre comment Dieu est en train de travailler en nous. Il y a quelque chose de très subjectif dans ça, mais en même temps de très concret. Tout au long de la journée, nous pouvons entendre les désirs de la chair parfois parler en nous, puis les désirs de l'esprit parfois parler en nous. Est-ce que vous êtes d'accord? Paul définit les œuvres de la chair. Alors, de peur qu'on soit confus et qu'on veuille comme spiritualiser ça. Rendre ça, tu sais, comme quelque chose qui n'est pas très, très concret, bien, Paul nous donne une liste. Puis en nous donnant une liste, il est en train de tracer une ligne dans le sable. Après, il va pouvoir parler des fruits de l'esprit. Mais Paul est en train de rendre ça extrêmement concret. Il nous donne une liste des œuvres que notre chair désire accomplir. Ma chair est l'homme naturel qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. La loi de la chair, c'est de faire ce genre de choses-là. La débauche, de l'impureté, du dérèglement, de l'idolâtrie, de la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités. Quand il y a des querelles entre des frères, c'est la chair qui veut ça. C'est une œuvre que cherche à produire la chair. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables. Les acceptables, c'est ma chair, pas mon corps. Ma chair, ma nature pécheresse qui désire aller et faire ça. D'accord? Ce sont les œuvres que la chair désire produire dans nos vies. Et c'est ça qu'elle cherche. C'est à ça qu'elle aspire. Elle veut produire des fruits dans ma vie. C'est ceux-là. Elle veut produire des œuvres dans ma vie, c'est ceux-là. Paul nous présente ensuite les fruits de l'esprit. Il ne parle pas des œuvres de l'esprit, il parle des fruits de l'esprit, les fruits qu'il voudrait produire dans notre vie. Et si la chair désire l'impudicité, bien l'esprit porte plutôt des fruits comme l'amour. Et donc, on a l'opposition entre les deux. Vous prenez la section des versets 19 à 21, qui sont les œuvres de la chair, et puis vous allez voir le verset 22, on a les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et chaque fois que j'ai une inclinaison pour aller porter des fruits semblables, c'est l'esprit qui est en train de parler. Donc, il y a une situation, il y a un conflit qui survient entre deux personnes. J'ai la tentation de quitter, de partir. Paul vient de me parler des divisions. D'accord? J'ai la tentation de m'en aller puis de ruminer ma rancune, mon amertume. La chair veut produire des œuvres dans ma vie, elle veut produire des œuvres. Mais j'ai aussi le désir en moi de dire, il faudrait que j'aille régler ça. Puis il y a une lutte à l'intérieur de moi. C'est l'esprit qui veut produire ce fruit-là. D'accord? Et j'apprends à être attentif puis à voir parce que je veux marcher selon l'esprit. Je ne veux pas aller produire les œuvres de la chair. Il y a quelque chose de subjectif, mais il y a quelque chose de très, très concret. Là. On vit ces moments à chaque instant du jour. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Oui? Wemba. Ben, j'aurais tendance peut-être à aller vers les actes. Mais pour les chrétiens qui marchent selon la chair, Paul en parle quand même abondamment, entre autres dans la lettre aux Romains. D'accord? Et puis, on va arriver dans les épîtres pastorales, il va parler d'individus même qui vont mourir parce que Dieu vient les chercher, parce qu'ils sont ses enfants et ils ne veulent pas marcher selon le Seigneur. Donc, pour les croyants, je pense que c'est relativement simple. On peut attrister l'esprit et donc on peut décider de marcher selon la chair aussi. Maintenant, si je suis un enfant de Dieu, il va y avoir des châtiments qui vont suivre parce que Dieu est un bon père et il veut former Christ en moi. Et ces châtiments-là pourraient aller jusqu'à la mort. Pour ce qui est des non-croyants qui ont un style de vie qui ressemble à la vie d'un chrétien, des fois avec une vie tellement rangée puis des gens qui cherchent à faire des bonnes choses, j'aurais tendance à les classer en deux catégories. Il y a les gens qui sont vraiment des propres justes et ils sont engagés dans une religion et par motif de religion, ils doivent faire toutes ces choses-là absolument. Et donc, il y a un péché profond qui est là, qui pousse toute l'action, mais il est caché derrière cette piété, cette religiosité-là. Je pense qu'il y en a d'autres, c'est des craignants Dieu. Dans le livre des Actes, on voit les gens qui étaient des craignants Dieu, qui n'ont pas encore saisi l'Évangile, mais l'Esprit est déjà en train de faire une œuvre dans leur vie et de les attirer vers le bien. Et au fur et à mesure qu'on va rentrer, qu'on va commencer à jaser avec quelqu'un, si je commence à lui exposer l'Évangile, je commence à lui parler de Dieu, je commence à lui parler du premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Si je commence à leur parler de ça, et ils ne veulent rien savoir de Dieu, mais ils ont une vie rangée avec des principes et ce sont des propres justes, profondément rebelles à Dieu, profondément rebelles. Ils ne veulent rien savoir du premier commandement, ils ne veulent pas amener Dieu, ils ne veulent pas honorer le Créateur. Ils sont simplement en train de bâtir avec des principes l'image de quelqu'un de bien. D'accord? Ça paraît bien devant les hommes, puis ils se sont donné des principes. Ce sont des propres justes. L'autre personne qui a une vie rangée comme ça, je vais lui parler de Dieu. Et puis, à un certain moment donné, oups, il y a une ouverture, il y a une aspiration à plus, il y a une critique par rapport à la société qui dit, qu'est-ce qui manque à la société? Regarde, je cherche à faire le bien dans ma vie. Ce qui manque, c'est l'Évangile. Puis là, après ça, on va pouvoir venir l'appliquer dans leur vie à eux. Je ne sais pas si ça répond. Une autre question par rapport à marcher selon l'Esprit. On va aller avec des conseils pratiques ensuite, là. OK. Paul nous dit dans Galates 5, il nous donne une directive encore une fois. Alors, c'est certain qu'on a un rôle à jouer. C'est certain que nous avons une décision à prendre de marcher selon l'Esprit. Il y a une directive qui m'est donnée. Elle n'est pas donnée à l'Esprit. D'accord? Paul n'est pas en train de dire à l'Esprit Saint, arrange-toi pour qu'il marche selon l'Esprit. Dirige l'Esprit Saint. Ce n'est pas une prière qu'il fait. C'est une directive qui m'est donnée à moi. Marche selon l'Esprit. Donc, c'est clair qu'il y a une décision qui doit être prise de ma part à renoncer aux œuvres de la chair pour pouvoir marcher selon l'Esprit. J'ai une décision à prendre pour renoncer consciemment. Paul nous rend un énorme service et nous donne une énumération. Alors, si ce matin, vous lisez la liste des œuvres de la chair, Paul aurait pu continuer pendant 3 pages, d'accord? C'est pas exhaustif, cela. Mais si en lisant ça ici, vous n'êtes pas en mesure de cocher à côté de chacune d'elles pour dire « j'ai renoncé ». Si vous n'êtes pas en mesure de faire ça, et il y en a plein là, il y en a qui sont très, très, très concrètes. Pensez à vos familles, vos voisins, les gens dans l'église, les gens autour de vous, quand vous surfez sur le web, n'importe quoi, quand vous êtes en train de manger, vous êtes en train de boire, vous allez au restaurant. On parle de tout là. La vie est pas mal complète. Si je ne suis pas en mesure de cocher à côté de chacune d'elles « j'ai renoncé à ça », mais il y a des œuvres de la chair auxquelles je n'ai pas renoncé. Je n'ai pas dit non à ces œuvres-là. Il y a une directive qui m'est donnée, marcher selon l'esprit, non selon les désirs de la chair. Je dois prendre une décision. Je dois prendre la décision de renoncer consciemment aux œuvres de la chair. Alors, est-ce qu'il y en a une à laquelle vous n'avez pas renoncé? Parce que vous avez une part à jouer dans ça. Je ne pourrais pas me présenter devant Dieu et dire, Seigneur, c'est comme tu ne l'as pas produit en moi. Non, il m'a donné une directive. Maintenant, on sait que la puissance, la force, la volonté vient de Dieu, mais il m'a donné une directive. Donc, il y a une part qui est la mienne, qui est ma responsabilité à moi. Est-ce qu'il y en a une à laquelle vous n'avez pas renoncé? Puis vous comprenez que ce n'est pas des renoncements permanents. Je peux avoir renoncé à l'amertume, mais il s'agit qu'il se passe quelque chose dans ma vie, puis je vais découvrir que là, non, aujourd'hui, je n'y renonce plus, là. Non, celle-là, non. Les autres, c'est correct, mais celle-là, non. Et il m'est arrivé, je le mentionne souvent, il m'est arrivé à 2 reprises que ça me prenne au moins 1 an et demi avant de pardonner quelque chose à quelqu'un. Là, je parle pas de ma conversion, d'accord? Quand je me suis converti, ça m'a pris 3 ans pour pardonner des choses de mon passé. J'y arrivais juste pas, là. J'ai pardonné comme 30 fois, là. Puis je me réveillais, puis je disais, ah non, il y a encore plein d'amertume, c'est pas réglé cette affaire-là. Plein de fois, pendant 3 ans peut-être, avant qu'à un moment donné, je dise, « Ouh, c'est fait, c'est vrai. Il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus de colère. Je ne sais pas, c'est Dieu qui l'a produit. » Mais après ça, plus tard dans ma vie chrétienne, au moins 2 fois, 1 an et demi avant d'être capable de pardonner à quelqu'un. Je voulais, là, j'allais dans la prière, je priais pour cette personne-là, mais je m'imaginais en train de lui parler. Là. Puis je me disais, je sais. Elle va dire ça, je vais dire ça. Boum, c'est fini. Je n'étais pas capable, là. Alors, vous comprenez, même si vous avez renoncé maintenant, ça ne veut pas dire que c'est permanent, c'est quelque chose qui va revenir. Il faut être prêt à renoncer parce qu'il va se produire des situations dans votre vie, dans nos vies. Il va arriver quelque chose et la chair a dit, « Wow, il y a une œuvre à faire ici. Yeah! Il y a quelque chose à produire, là, ici, une division. » Vous voyez? C'est ça, là. Elle veut produire cette œuvre-là, la chair. Le diable concourt avec elle, le monde concourt avec elle. Lorsque les chrétiens sont des mauvais conseillers, ils concourent avec elle. Divorce! Arrière de moi, Satan! » C'est une œuvre de la chair qui m'est proposée. Comprenez? Ça va pousser dans ce sens-là. Là. Lui, parle-y plus. Tu sais, il y a du monde à l'église, c'est mieux de ne pas leur parler. Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, c'est la pensée des hommes. C'est une œuvre de la chair que tu veux que je produise, puis ma chair, elle a le goût de t'écouter. Je n'irai pas produire cette œuvre-là. Je vais écouter les désirs de l'esprit. Depuis quelques années, je fréquente un peu John Owen, un puritain. Et puis, je vais vous parler probablement dans les prochaines semaines de trois petits de ces livres là, qui ont été traduits en français. Mais John Owen a beaucoup, beaucoup, beaucoup médité sur comment est-ce qu'on lutte quotidiennement, comment est-ce qu'on livre le combat pour marcher dans la sainteté et vivre avec cette nature charnelle qui voudrait comme venir prendre le dessus puis faire taire l'esprit puis attrister l'esprit. Et une des choses dernièrement que j'ai lues qui m'a beaucoup aidé personnellement puis beaucoup encouragé, c'est cette idée que de manière habituelle et régulière, on devrait être en train de renoncer aux œuvres de la chair. Il y a quelque chose qui doit être habituel, qui doit être quotidien, parce que chaque jour, ma chair va avoir l'opportunité d'exprimer des désirs. Et donc, il y a un renoncement quotidien à dire aujourd'hui, je veux marcher selon l'esprit. Je ne veux pas marcher selon la chair. Parce qu'il va y avoir des opportunités et la chair va parler. Elle va dire, wow, regarde, tu pourrais faire ça ici. D'accord? Donc, cette idée de quotidiennement, habituellement développer cette attitude, aujourd'hui, Seigneur, je veux. Et dans le même sens, si vous revenez avec moi dans Éphésiens 4, Éphésiens 5, 18 à 21. Si je veux marcher selon l'Esprit, je pense qu'une chose qui m'aiderait à le faire, ce serait d'être rempli de l'Esprit. Et donc, dans Éphésiens 5, 18 à 21, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Et là où je veux revenir, c'est à la dimension communautaire de l'exhortation qui est donnée ici. Okay? « Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendant continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Parce qu'il termine avec cette idée de soumission mutuelle, entre autres, parce que les directives sont toutes au pluriel, c'est quelque chose, comme on l'a vu lorsqu'on a vu cette leçon-là, c'est quelque chose de communautaire. Si je veux marcher selon l'Esprit, ne pas écouter les désirs de la chair, mais écouter les désirs et les fruits que l'Esprit veut produire dans ma vie, si je veux être rempli de l'Esprit, il va falloir que je vive avec la communauté des frères et sœurs. Il va falloir que je m'entretienne par des cantiques, des psaumes. Alors, cette idée que je vais venir à l'église le dimanche matin, puis après, je ne suis plus en communion avec des frères. Et là, il y a toutes sortes de manières, d'accord? Dans l'église ici, on vous parle beaucoup, beaucoup des petits groupes. L'autre fois, on est allé déjeuner, Alain et moi, puis avec son travail actuellement, il me dit, regarde, Yannick, je ne peux pas comme être tout le temps là. À un petit groupe, tout ça. Mais la semaine dernière, j'ai su que tu étais allé prendre un café avec Stéphane. Tu sais? Donc, il est allé prendre un café, puis Stéphane, il dit, « Ah, quand on va prendre des cafés, on prend des longs cafés. » Puis on jase ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont en train de s'entretenir, de s'exhorter, de s'exciter. Voyez-vous, si je veux marcher selon l'Esprit, bien, ça va me demander certainement de chercher la plénitude de l'Esprit. Et ça, je vais la trouver dans la communauté des saints. C'est lorsque je suis avec les frères et sœurs, pas isolés du monde, pas séparés du monde, ça n'empêche pas du tout qu'il y ait des non-croyants au milieu de nous. Gloire à Dieu s'il y a des non-croyants au milieu de nous. Mais je suis avec des frères et on est en train de s'exhorter. On est en train de rendre grâce ensemble. On est en train de s'exciter à voir ce que Dieu est en train de produire dans la vie de l'autre. On est en train de prendre des nouvelles. Et il n'y a rien de surprenant à ce que vous ayez de la difficulté à marcher selon l'Esprit si vous vivez votre vie chrétienne en silo, à côté de l'Église. Puis vous venez juste le dimanche matin écouter une prédication. Il n'y a rien de surprenant à ce que vous ayez de la difficulté à marcher selon l'Esprit. D'accord? Parce que vous êtes seul dans votre coin à dire, moi contre le monde, on va y arriver, je vais marcher selon l'Esprit. Ce n'était pas ça l'idée de l'Église. D'accord? Et c'est pour ça que lorsque quelqu'un me dit, ben, on déménage à Tombouctou, puis on va changer d'assemblée, je ne peux pas faire autrement que de dire Amen. Même si ça me crève le cœur de dire Amen, je vais dire Amen. Vous comprenez? Parce qu'ils vont aller à leur église locale. Ils vont être près de leur assemblée. Ils vont pouvoir vivre avec l'église. Ils vont être en relation avec l'église. Et ça, je pense que c'est un des conseils pratiques importants pour pouvoir marcher selon l'esprit et non selon les désirs de la chair. Avez-vous des questions? Des commentaires? Parce que là, je vais passer à la révision. Oui. Mais, puis je pense que c'est très important. Je pense que c'est très, très important. Si on parlait du Seigneur et qu'on chantait des cantiques, juste lorsqu'on est avec les frères et sœurs, il manquerait quelque chose à notre vie. Ah, définitivement. Puis il faut chercher une communion personnelle avec le Seigneur. Ce qui me frappe en étudiant comment l'Esprit travaille dans le Nouveau Testament, c'est beaucoup au milieu de la communauté. Et ça m'a frappé parce que là, j'étudiais le sujet actuellement, mais ça m'a frappé. Et lorsque Paul est seul, Paul se plaint d'être seul. Rappelez-vous les moments où Paul souffre de solitude. Puis je dis, Paul, mets-le en prison avec un frère, puis c'est cool. Il est en prison, il est avec un frère. On va chanter, hein? On va chanter. Bon, ouais, on va chanter. On chante des cantiques au Seigneur. Je dis, c'est ça qui fait quand il est en prison, s'il est avec un frère. S'il est seul, je suis sûr qu'il le faisait quand même. Il avait une responsabilité individuelle. Je suis convaincu, puis il était très sérieux avec ça, c'est pas une question. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose de communautaire, de dynamique qui est là, qui fait que lorsque je vais écouter des cantiques dans ma voiture, c'est bon. Quand je vais chanter un cantique avec un frère, c'est très bon. Et lorsque je suis dans ma voiture, ben oui, je vais écouter des cantiques chrétiens. Amen. Mais quand je suis en train de chanter avec des frères, on est en train de s'exhorter. Il y a vraiment une part d'instruction, d'exhortation dans la louange au milieu des frères. D'autres commentaires, questions? Oui, Claude. J'ai trois titres qui ont été publiés par Sam Beck. Je ne les ai pas par cœur ici. En fait, tu veux en anglais ou en français? En anglais, j'ai une petite lecture comme ça. Overcoming Sin and Temptation de John Owen. La force de John Owen, c'est qu'il prend de la théologie, il prend des questions théologiques difficiles et ça devient extrêmement pratique avec lui. Et on est à une autre époque. Fait que c'est comme s'il regarde le combat de la vie à l'extérieur de tout ce qu'on peut avoir de déformer avec la modernité. Mais ce que je vais faire, j'espère dimanche prochain, vous donner une liste de recommandations de lecture pour l'été. Et ça va être dans le feuillet, puis ça va être sur le site Internet. Il y a celui-là, les titres en français, ils ne me reviennent pas à l'esprit. Les titres en français sont un peu moins décourageants, c'est des plaquettes. Oui. Oui. Oui, je suis d'accord avec vous, puis c'est une décision individuelle pour commencer. Maintenant, lorsque je vais à l'époque du Nouveau Testament, comment je vous dirais ça? La vie n'était pas aussi individualiste qu'aujourd'hui. Et donc, tu n'étais pas en contact avec des chrétiens juste dans des petites plages horaires dans ton horaire. Tu vivais dans une communauté, puis tu vivais avec des chrétiens, tu croisais des chrétiens, ils se rassemblaient régulièrement, ils prenaient soin les uns des autres. Et parce que nous, on vit individuellement, ben on a donné un ton individuel à ça. Mais je veux dire, moi, à la limite, un frère qui viendrait me voir et qui me dirait, Yannick, j'ai beaucoup de difficultés à lire les Écritures. Puis honnêtement, ce que je fais, c'est que je me rassemble 4 fois par semaine avec des frères, puis on lit les Écritures ensemble. Puis le reste du temps, j'essaie de méditer et de mémoriser certains textes qu'on a lus ensemble. Ben, gloire à Dieu, c'est génial. Donc, ce n'est pas obligé d'être individuel. C'est une décision individuelle. Ça, c'est clair. C'est une décision individuelle. Après ça, est-ce que, voyons, on met un accent très fort sur l'idée qu'il faut faire un culte personnel. C'est génial, je veux dire, c'était le privilège du roi dans l'Ancien Testament de faire sa copie du livre biblique puis de le lire tous les jours. Fait que nous, on a une copie du livre biblique, je veux dire, ça serait comme insensé de ne pas lire ça. Mais c'est un livre qui a été écrit premièrement pour être lu en public. C'est un livre qui a été écrit premièrement pour être partagé en public. Les Saintes Écritures, pendant des siècles, ça a été ça. Alors, avec notre tendance à dire, mais c'est mon culte personnel. Oui, mais c'est quelque chose que tu vis seul avec toi-même, là. Je ne dis pas que l'Esprit ne parle pas là, il parle. Mais c'est ça. C'est les gens qui viennent à l'église, puis qui après ça ne sont pas en communion avec les frères, n'embarquent pas dans les petits groupes, ils ne sont pas dans des triades, des quoi, de formation de disciples, ne rencontrent pas des frères régulièrement, au travail, des groupes de prière, au travail, tout ça. Ce n'est pas ça le modèle qu'on a là. Ça demande plus de communion que ça pour poursuivre la plénitude de l'Esprit, selon moi. Et je pense que c'est la pensée de Paul ici. Oui, Anna. Ben oui. Ah oui, c'est génial. Ah oui. Ah oui, c'est génial. Faites-le à votre travail. Partez quelque chose à votre travail. S'il y a 2 chrétiens, 3 chrétiens, pendant la semaine, priez pour les collègues de travail. Absolument, c'est extraordinaire. Si vous avez le privilège de le vivre au travail, c'est génial. Mais en même temps, je veux dire, si je travaillais à 2 heures, puis là, je suis en train de faire quelque chose d'incroyable quand je dis ça. Dire qu'il y a quelqu'un ici qui m'entend. Si je travaillais à 2 heures d'ici, personnellement, je ne resterais pas dans cette église-ci. Qu'est-ce que je viens de dire là? Mais j'irais vivre près d'où je travaille. Personnellement, c'est ça que je ferais. D'accord? Parce que je dois être en contact avec l'église. Je dois être en relation avec l'église. Et je veux que l'église soit en contact avec les gens que moi j'évangélise. Ça veut dire ma communauté. Proche de ton domicile, ce que je veux dire, c'est qu'idéalement, ton domicile puis ton travail ne devrait pas être 2 heures de distance. Alors, pour beaucoup de personnes, ça va être difficile de le faire. Mais vous comprenez, c'est aussi parce qu'on poursuit le meilleur des deux mondes. On veut avoir notre maison en banlieue, puis on veut avoir le bon salaire de la job sur l'île de Montréal, admettons. Et la réalité, c'est que les églises sur l'île de Montréal, c'est extrêmement difficile parce que c'est ça qui se passe. Hein? Les gens vont à l'église de Rosemont, puis ils habitent à 2 heures de l'église de Rosemont. Puis ils font la route chaque dimanche matin. Puis quand je dis 2 heures, je dis, il y en a que je connais que c'est 2 heures. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils entrent dans Rosemont, ils vont vivre l'église là-bas, puis là, ils s'en retournent. Puis les gens qui habitent dans Rosemont, eux autres, c'est qui leur parle? Et donc, on vit à une époque où on veut le meilleur de tout. On veut avoir notre petite vie de banlieusard, le travail en ville, et donc, on n'est pas prêt, on vit tout ça éclaté, puis tout ça fait qu'on passe tellement de temps à voyager qu'on n'est pas en train de vivre dans notre communauté puis d'évangéliser dans notre communauté. Moi, je ferais ça définitivement, mais idéalement, j'essaierais même de me rapprocher de mon travail, à moins que je puisse travailler à la maison le plus possible, faire des heures à la maison. Je sais que ça a l'air flyé ce que je vous dis, hein, mais la mesure de l'impact que vous avez avec l'Évangile va être affectée par ça. Parce qu'on ne conduit pas des gens à l'Évangile juste en les croisant dans le métro. Ça arrive, ça. Je veux dire, Philippe a conduit l'eunuque au Seigneur. Mais vous comprenez que la téléportation par l'Esprit-Saint, là, c'est quand même exceptionnel dans la Bible. Fait que juste accrocher du monde dans le métro, on le fait. Il faut le faire. Il faut témoigner. On leur donne des traités à caissière, tout ça. C'est correct. Mais je veux dire, personnellement, les gens en qui j'espère avoir le plus d'impact, c'est mes voisins immédiats puis les gens avec qui je vais faire du karaté 2 fois par semaine. Parce qu'ils me connaissent, puis ils voient mes enfants, puis ils voient, ah, ben, tiens, pas trop concentré, hein, comment ce gars-là, il gère ça? Comment il gère son fils? Pourquoi il amène William avec lui à chaque semaine? Parce qu'il l'aime, William. Pourquoi il l'aime, William? Il est sympathique, William, là, si sa mère m'entend. Mais au-delà de ça, pourquoi il fait ça? Vous comprenez, ces gens-là me voient vivre, ils commencent à regarder bizarre. Il est bizarre, lui. Donc, c'est ça, il faut côtoyer les gens pour pouvoir vivre l'Évangile devant eux. Mais je comprends que c'est flyé ce que je vous dis là, Il y a des milliers d'églises actuellement en Amérique du Nord qui sont en train de le faire parce qu'ils réalisent que c'est ce qui se passe dans d'autres pays. En Inde, évidemment, tu sais, tu marches pas 4 heures pour aller travailler puis tu prends pas 8 métros. Tu sais. Fait que les gens sont plus prêts et il y a un impact pour l'Évangile. Puis il y a des milliers d'églises actuellement en Amérique du Nord qui sont en train de faire ces ajustements-là pour dire, il faut que j'essaie d'être près de ma communauté. Fait qu'autant que possible, je vais rapprocher tout ça. Mais c'est un autre sujet. On est en train de parler d'évangélisation. OK, la révision. Alors, qu'est-ce que le blasphème contre l'Esprit? Clarifions les deux premiers péchés. Blasphème contre le Saint-Esprit, résister à l'Esprit-Saint. La manière qu'on l'a vu dans les passages en question, il s'agit de péchés commis par celui qui n'est pas chrétien. D'accord? Le blasphème contre l'Esprit, ce serait d'attribuer au diable le témoignage que l'Esprit est en train de donner de la personne de Jésus-Christ. L'Esprit est en train de témoigner de la grandeur de Christ, et moi je vais attribuer ça au diable. Et si je m'entête à poursuivre ça, donc en fin de compte ça revient aussi à rejeter Christ, mais avec une certaine hargne, avec un mépris, si je persiste là-dedans, la fin de ces choses-là, c'est la condamnation éternelle. D'accord? L'Esprit est en train de dire, le Fils, c'est lui la voie pour entrer dans la maison du Père. Tu ne veux rien savoir, tu es condamné. En termes simples, ça ressemble à ça. Résister à l'Esprit, rappelez-vous, c'est Étienne qui a utilisé ça pour parler de cette caractéristique. Il voyait une caractéristique chez le peuple d'Israël, pas chez tous les Juifs, mais chez le peuple d'Israël, de résister à l'œuvre de Dieu, au messager de Dieu, à la parole de Dieu qui est apportée par les messagers de Dieu. Et donc, Étienne refait l'historique, juste avant d'être lapidé, il refait l'historique de tous ces moments, et il fait juste donner des illustrations, de ces moments où Dieu envoie ses messagers, donc c'est la parole de Dieu qui vient, et il résiste aux messagers, à la parole et donc à Dieu. Puis il dit ça, c'est une caractéristique de votre cœur, vous résistez au message que Dieu veut vous apporter. Et Étienne termine finalement avec l'idée de dire, mais c'est ça que vous êtes en train de faire encore aujourd'hui. Et la preuve, Pink, il reçoit une roche puis il est mort. Vous résistez jusqu'à devenir des meurtriers. Mais. Et donc, ça veut dire que lorsque moi je vais, quand je le fais bien, quand j'annonce la parole, que ce soit ici, mais vous aussi, là, dans votre famille, autour de vous. Tout à l'heure, je parlais avec une sœur qui me parlait de son mari qui est pauvre Seigneur encore. Mais c'est ça, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il résiste? Il résiste à l'œuvre de Dieu. Il y a une grâce pour nous lorsqu'on réalise ça, parce qu'on réalise que c'est un conflit entre Dieu et cette personne-là, et il y a quelque chose à lui dire aussi. Ce n'est pas juste moi puis moi ce que je pense, c'est le message que Dieu te donne à travers moi. Si tu doutes de ça, on va ouvrir les Écritures, tu vas voir ce que je te dis, c'est ce que les Écritures disent. Fait que quand tu rejettes ce que je t'apporte, c'est Dieu que tu es en train de rejeter, ce n'est pas moi. D'accord? Ça, c'est résister à l'Esprit. Est-ce qu'on doit et est-ce qu'on peut prier l'Esprit-Saint? C'est avec Michel Famille que vous aviez vu ça. On peut certainement prier l'Esprit-Saint. L'Esprit, c'est une des trois personnes de la Trinité. C'est une personne. Ce n'est pas une force, comme les témoins de Jéhovah voudraient nous le faire croire. C'est vraiment une personne. Et donc, on peut certainement prier l'Esprit-Saint. Jamais dans les Écritures, on a l'idée qui nous est présentée de prier l'Esprit. D'accord? Alors, les Écritures ne nous incitent jamais à prier l'Esprit. Et donc, quelqu'un qui ne prierait jamais l'Esprit, mais qui prierait le Père et le Seigneur Jésus, est en train de prier selon les Écritures. Je ne dirais jamais que quelqu'un qui prie l'Esprit Saint pêche, je ne ferais pas ça. Mais une pensée qui dirait, ah, l'Église a négligé l'Esprit depuis des siècles, et puis Saint-Esprit, nous, on ne te négligera pas, on va s'adresser à toi, tout ça, puis... Encore plus loin, ça serait d'amener l'idée que tu pourrais attrister l'Esprit si tu négliges de lui parler parce que c'est comme la personne oubliée dans la Trinité. C'est tellement une mauvaise conception de la Trinité. C'est une mauvaise compréhension du rôle de chacune des personnes au sein de la Trinité. D'accord? Ils ont des rôles différents et jamais dans les Écritures, il nous est dit qu'on devrait prier l'Esprit-Saint. Je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'il y a des situations où c'est comme tu veux voir une œuvre puissante de l'Esprit. Mais je veux dire, ce qui serait naturel selon les Écritures, ce serait de dire, Seigneur Jésus, viens le faire. Puis on sait que tu vas le faire par ton esprit. On veut voir la puissance de ton esprit manifestée ici. Est-ce que ça, c'est clair? On peut? Est-ce qu'on doit? Non. Si on ne le fait pas, est-ce qu'on pêche? Non. Si on le fait, je ne pense pas qu'on pêche non plus. Je pense que ça serait d'aller au-delà des Écritures, parce qu'il n'y a pas non plus aucun texte qui nous dit qu'on ne devrait pas prier l'Esprit. Mais notre tendance naturelle, c'est de s'adresser au Père et de s'adresser au Seigneur Jésus. On voit beaucoup ça aussi dans le Nouveau Testament. D'accord? Comment risquons-nous d'éteindre l'Esprit? Ce qu'on a vu ensemble, c'est que ça se passe dans l'Assemblée. Il y avait une dimension communautaire à ça. On peut éteindre l'Esprit lorsqu'on est en train de se fermer à une œuvre que l'Esprit-Saint voudrait faire au milieu de nous. Vous vous rappelez, c'est dans le cadre de la prophétie. Pardon. Et si on est assemblé en Église et Dieu veut faire une œuvre dans mon cœur à travers la prédication, lorsqu'on a parlé de la prophétie, on a parlé probablement de cet élément-là, mais d'exhortation, de frères, de sœurs qui viennent me voir, lorsque je suis dans mon petit groupe, lorsque quelqu'un vient me voir, puis il veut m'encourager, ou il veut m'exhorter, ou il veut juste ouvrir les Écritures avec moi, puis je décide comme de m'opposer à ça, ou de mépriser, ou de dire, bon, c'est encore ça, tu sais, ben oui, le pasteur vient d'arriver encore avec son sermon. Oui, mais si l'Esprit-Saint veut parler à ton cœur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Une tentation simple de ça, c'est qu'à un certain moment donné, je peux laisser de l'amertume rentrer dans mon cœur. Et là, chaque fois que l'Esprit veut faire une œuvre, il y a une sœur qui va venir me parler de quelque chose. Tu sais, puis c'est comme si, wow, là, je les lis avec cette lunette très, très charnelle qui dit, ouais, je le vois venir. Regarde bien ce qu'ils vont me dire, c'est ça qu'ils vont me dire, c'est correct. J'ai attristé l'Esprit, j'ai laissé de l'amertume venir dans ma vie. Il n'y a pas de plénitude de l'Esprit dans ma vie. Et là, je suis en train d'essayer même d'éteindre une œuvre que l'Esprit veut faire. Ce qu'on a vu dans le passage, c'est que ça peut être une communauté qui va éteindre l'Esprit. D'accord? Et donc, il y a, dans Éphésiens, il y a une dimension très, très communautaire à cette unité de l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit-Saint est en train de faire au milieu de nous? Où est-ce qu'il est en train de nous conduire? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Est-ce que je vais résister à ça parce que dans le passé, j'ai vécu des affaires puis là, je suis fermé à ce que l'Esprit peut faire au milieu de nous? Comment être rempli de l'Esprit? On l'a couvert un petit peu, puis comment ne pas attrister l'Esprit Saint aussi, on l'a couvert un peu. Être rempli de l'Esprit, il y a une dimension, encore une fois, très communautaire. Je ne vois pas dans les Écritures que ça va être essentiellement quelque chose que je vais vivre par moment. Une des choses qu'on avait dit qui est importante par rapport à la plénitude, c'est Paul semblait s'attendre à ce que les chrétiens vivent ça quotidiennement. À chaque semaine, on devrait être rempli de l'Esprit parce qu'on est en train de s'entretenir par des psaumes, des cantiques, on est en train de rendre grâce, on vit ensemble. Et donc, je ne devrais pas être dans une espèce de situation ou d'état où, généralement, moi je dirais que ce qui me caractérise, c'est que je suis quelqu'un qui attriste l'Esprit parce que je laisse ces péchés-là dans ma vie. Et exceptionnellement, je suis quelqu'un de rempli de l'Esprit parce que là, je marche selon l'Esprit. D'accord? Et malheureusement, il y a des chrétiens chez qui ça ressemble à ça. On va parler de chrétiens charnels, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils doivent se repentir de ces choses-là. Voilà, est-ce que quelqu'un aurait une ou deux questions avant qu'on termine, ou des commentaires? Est-ce que ça aide concrètement à comprendre comment l'Esprit travaille dans nos vies? Oui, Claude. Oui. Mais si tu prends une concordance, puis tu regardes toutes les prières qui sont adressées au Seigneur, puis tu regardes dans le contexte, est-ce qu'il est en train de parler du Père ou il est en train de parler du Seigneur Jésus? C'est surprenant le nombre de fois les prières qui sont adressées au Seigneur, puis dans le contexte qu'on voit, c'est « Oh, c'est le Seigneur Jésus ici ». Et donc, c'est pour ça que je veux dire que c'est normal aussi de prier Christ directement, parce qu'on le voit à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament. Maintenant, quelqu'un qui, au contraire, va comme toujours s'adresser à Jésus, parce que Jésus était humain, hein? Puis je sais, de certains d'entre vous, c'est ça que vous vivez. Vous vous sentez plus près de Jésus parce que Jésus était humain. Je pense même que c'est naturel. Il y a une identification avec ses souffrances, avec ce qu'il a vécu, son humanité. Mais certains chrétiens vont avoir de la difficulté à s'adresser au Père, parce que pour eux, le Père, moi, il y a peut-être la figure du Père dans leur passé, dans leur enfance, tout ça. Puis le Père, c'est l'Esprit, puis il n'est pas venu comme... c'est pas le Fils, il n'était pas comme humain. Il y a quelque chose à régler de majeur ici, parce que, premièrement, on prie le Père. Premièrement, on prie le Père, ça c'est clair, la direction naturelle. Mais, comme je te dis, ce serait une manière d'aller comme faire une théologie biblique de la prière pour aller voir c'est où l'équilibre, là. Ce serait d'aller regarder à chaque fois qu'il y a des prières d'adresser au Seigneur, de quel Seigneur on parle. Est-ce qu'on parle juste de Dieu ou, selon toute probabilité, on est en train de parler du Seigneur Jésus? La majorité du temps, le terme Seigneur dans le Nouveau Testament est utilisé pour Jésus. D'autres? Oui, Jean-Sébastien, ça va être le dernier commentaire. Je suis sûr qu'il t'en tient pas rancune. Oui, c'est ça. C'est ça, je l'ai mentionné tout à l'heure. On ne voit pas cette notion-là. Je ne pense pas que c'est mal. Je ne pense pas que si on ne le fait pas, on fait mal non plus, surtout pas. Donc, il n'y a aucune directive dans ce sens-là. François. Je te dirais qu'on se casse la tête parce que la question de François, c'est pourquoi est-ce qu'on se casse la tête? Est-ce que Jésus est meilleur que Dieu pour... En fait, on se casse la tête parce qu'on est en relation avec trois personnes en une. Puis moi, j'aime bien quand mes enfants font la différence entre papa et maman. Fait que j'aime quand mes enfants disent « Bonne fête des pères, papa ». Pas juste « Bonne fête les parents ». Fait que c'est pour ça qu'on se casse la tête un petit peu parce que ça... On apprend à aimer, à apprécier, à connaître plus intimement à travers les années, à travers notre communion avec le Seigneur. On apprend à connaître la personne de Dieu et m'adresser au Père, parce que c'est le Père Tout-Puissant en qui il n'y a aucune ombre de variation, c'est m'adresser au Père. Puis m'adresser au Fils qui est venu souffrir sur la croix pour mes péchés, puis qui est victorieux, puis qui a la puissance, puis qui règne, c'est m'adresser au Fils. Et c'est pour ça. C'est parce que je ne suis pas en train de m'adresser au big God. T'sais, j'ai été éclairé plus que ça tranquillement à travers les Écritures. Je ne suis pas moquant, François, quand je dis ça. Ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui connaissent juste Dieu. Moi, personnellement, je connais plus Dieu que Dieu. Je connais Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et dans la grâce de Dieu, j'apprends à comprendre comment ça fonctionne dans cette relation-là, puis ça enrichit mon adoration, ma louange, ma communion. Ça enrichit ma foi. Quand je demande à Christ de me donner une victoire parce qu'il a vaincu le péché sur la croix, ça enrichit ma foi et ma conviction qu'il va répondre à ma prière d'une manière différente de « Père, aide-moi ». Parce qu'il y a une identification avec ce que Christ a vécu qui est différent. On va terminer avec un mot de prière. Je m'excuse, il est 10h01. Père éternel, tu es merveilleux et notre Dieu dans ta sainte Trinité, tu es fantastique. Et encore une fois, je le dis, je ne comprends pas vraiment qu'un être aussi grand et infini ait pu venir faire sa demeure en moi, que mon corps puisse être déclaré temple du Saint-Esprit. Premièrement, à cause de mon indignité, Seigneur. Mais aussi à cause de ta grandeur, de ta beauté, de ta majesté. Comment cela peut-il se produire? Et il y a un mystère, Seigneur, par rapport à l'Esprit. Jésus l'a si bien dit en parlant de la nouvelle naissance. comprend pas toutes ces choses, nous fonctionnons par la vue, Seigneur. Mais par la foi, Seigneur, nous désirons être sensibles à l'œuvre que l'Esprit veut faire dans nos vies, pour écouter ses désirs et non les désirs de la chair, pour marcher selon l'Esprit. Par la foi, Seigneur, nous voulons être sensibles afin de ne pas attrister ton esprit en tolérant des péchés qui voudraient s'installer, des œuvres charnelles qui voudraient venir se produire dans notre vie. Par la foi, Seigneur, nous voulons nous rassembler pour recevoir ton œuvre dans notre communauté et ne pas éteindre cette œuvre, mais rester disponible, le cœur grand ouvert, pour que tu nous transformes et nous façonnes, Seigneur. Merci, Père, pour ta parole qui est tellement riche. Puisses-tu nous faire grandir et nous apprendre, Seigneur, à marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen. Amen. Alors, la semaine prochaine, il n'y a pas de cours. Le service est à 9h30. On commence la saison d'été.